VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du vendredi 10 novembre 2017, en direct de Washington, Idrissa Sedoulia et Anne Albertson pour commencer les titres.
Au Burkina Faso, 4 assaillants tués par l'armée dans le nord, frontaliers du Mali et du Niger.
En Guinée, le dossier sur le massacre du stade de Conakry en 2009, transmis au parquet, annonce le ministère de la Justice.
Au Gabon, lancement d'une opération de lutte contre la fraude transfrontalière.
Raila Odinga, leader de l'opposition kényane, estime que l'exclusion ethnique est le plus gros problème politique aujourd'hui dans son pays.
Le président américain Donald Trump au Vietnam aujourd'hui pour le sommet de l'APEC.
Le président français Emmanuel Macron hier soir à Riyad dans une tentative de faire baisser la tension entre l'Arabie Saoudite et l'Iran.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Burkina Faso, 4 assaillants ont été tués hier dans une attaque contre un détachement militaire qui effectuait une patrouille de reconnaissance à Ariel, localité du nord du Burkina Faso, frontalier du Mali. C'est ce qu'ont indiqué des sources sécuritaires à l'AFP. 5 militaires ont été blessés, dont un grièvement, ont ajouté les mêmes sources, évoquant également des dégâts matériels sur les véhicules de l'armée. Plusieurs armements et des munitions ont également été saisis auprès des assaillants. Le nord du Burkina Faso, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques djihadistes depuis le premier trimestre 2015 qui ont fait 133 morts en 80 attaques, selon un bilan officiel.
En Guinée, le ministère de la Justice a annoncé hier que les juges d'instruction qui enquêtent sur le massacre du stade de Conakry en 2009 ont transmis le dossier au parquet, ouvrant la voie à un procès plus de 8 ans après les faits. Parmi les 14 prévenus, il y a l'ex-chef de la junte, Moussa Dadis Camara, qui vit en exil au Burkina, et son ancien aide de camp, Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba Diakité, extradé du Sénégal vers la Guinée en mars 2017. Pour rappel, le 28 septembre 2009, des militaires avaient tué au moins 157 personnes et violé 109 femmes dans un stade de Conakry où étaient rassemblés des milliers d'opposants à la candidature à l'élection présidentielle de Dadis Camara, selon une commission internationale d'enquête de l'ONU.
Au Cameroun, le procès des responsables présumés de la catastrophe ferroviaire d'Esseka s'est ouvert cette semaine dans cette ville avec le témoignage d'un expert ferroviaire, Le Point avec Yacouba Ouédraogo.
Les débats ont été ouverts par l'audition d'un témoin de l'accusation et d'un expert ferroviaire, a affirmé Maître Guy-Olivier Moteng, membre d'un collectif d'avocats défendant certaines victimes. L'expert a expliqué qu'il existe un rapport datant de 2015 et connu de Camerail selon lequel le train à l'origine de l'accident n'était pas en mesure de garantir la sécurité des passagers. Il a conclu au mauvais état du système de freinage, insistant sur le fait que cela était connu des responsables de Camerail. Maître Moteng précise que l'affaire a été ajournée au 22 novembre, date à laquelle d'autres témoins de l'accusation vont être auditionnés. Plus de 15 personnes sont poursuivies pour homicide involontaire, activité dangereuse, négligence et imprudence. Les mises en cause sont principalement issues de Camerail, une compagnie ferroviaire dont le groupe français Bolloré est l'actionnaire majoritaire. L'ex-directeur général de Camerail, Didier Van de Bon, et son remplaçant, Jean-Pierre Morel, était présent dans le box des accusés. Le 26 octobre 2016, le déraillement d'un train entre Douala et Yaoundé a fait 79 morts et environ 600 blessés, selon les autorités camerounaises.
Au Cameroun, le gouvernement a lancé hier une opération de lutte contre la fraude transfrontalière. L'objectif, améliorer les recettes de l'État. Précision d'Éric Manirakiza.
D'après Ike Nguoni Aila Oyomi, porte-parole de la présidence, Libreville veut renforcer le contrôle des biens et des personnes aux frontières. Ceci est lié à la baisse des recettes douanières et à l'augmentation de marchandises prohibées. Baptisée Aigle Douane, cette opération permettra donc d'optimiser les recettes douanières et de protéger les consommateurs des produits des trafics illicites en tout genre, a indiqué l'autorité douanière. Le directeur de cabinet du président Ali Bongo Ondimba a lui-même supervisé le coup d'envoi de cette campagne et devrait s'étendre à l'ensemble l'ensemble du territoire, dans les différents postes frontaliers du pays, les marchés, les surfaces commerciales, les entreprises et les véhicules à immatriculation temporaire. En mars, le directeur général des douanes de l'époque, Alain Djoubi Ossami, a été inculpé et incarcéré pour détournement de deniers publics et fonds en écriture. En 2004, trois anciens hauts responsables des douanes ont été écroués, toujours dans le même cadre de sévir contre la corruption.
En Guinée équatoriale, quelques 300 000 électeurs se rendent aux urnes dimanche pour des élections législatives, sénatoriales et municipales. Élections sans grand suspense, tant la domination du parti au pouvoir reste grande, mais l'opposition affiche son ambition de peser au Parlement. John Lyndon.
Dimanche, le Parti démocratique de Guinée équatoriale, au pouvoir depuis 1987, devrait rester seul maître à bord au Parlement, dont il occupe aujourd'hui 99% des sièges et sur lequel il a exercé un contrôle sans partage depuis la fin du monopartisme en 1991. En face, une pléiade de partis d'opposition, l'Union du centre droit, une coalition de plusieurs partis amenée par le Parti Convergence pour la démocratie sociale et le Parti citoyen pour l'innovation. C'est ce dernier parti qui fait le plus parler de lui à Malabo. Bien que n'ayant jamais participé à un suffrage, il rassemble des milliers de militants et sympathisants à ses meetings. Toutefois, la candidature de son leader, Gabriel Nzeyobian, ex-lieutenant de l'armée revenu des 13 années d'exil en Espagne, d'abord exclu de la présidentielle du 24 avril 2016 pour n'avoir pas vécu 5 années consécutives dans le pays, a été de nouveau exclu de ces élections.
Le leader de l'opposition kényane, Raila Odinga, a dit hier, ici à Washington, que la récente élection présidentielle a rendu tellement furieux les Kényans qu'ils envisagent la sécession. Dans un discours devant le Centre pour les études internationales et stratégiques retransmis par la télévision kényane, M. Odinga a affirmé que l'exclusion est le plus gros problème politique aujourd'hui au Kenya et pourrait déchirer le pays en l'absence d'une solution. Raila Odinga, qui est Luo, a souligné que tous les 4 présidents du Kenya depuis l'indépendance en 1963 ne viennent que de 2 ethnies seulement, celle des Kikuyu et des Kalenjin, alors que le Kenya en compte 44. Il a boycotté le dernier scrutin présidentiel, le qualifiant de farce.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump est aujourd'hui au Vietnam, 4e étape de sa tournée de 12 jours en Asie, pour des discussions sur des questions liées au commerce, aux relations diplomatiques et à la Corée du Nord. Monsieur Trump doit participer au sommet de l'APEC au Vietnam, où les leaders des principales économies de la région vont parler de croissance et de coopération.
En Arabie Saoudite, plus de 200 personnes ont été arrêtées dans le cadre d'une purge anticorruption sans précédent menée récemment dans le royaume. Cette purge a notamment visé des princes, ministres et hommes d'affaires, ont indiqué hier les autorités saoudiennes. Cette annonce intervient sur fond de réformes choc dans le royaume ultra-conservateur sous l'impulsion du jeune prince héritier Mohammed Ben Salman, considéré comme l'homme fort d'Arabie Saoudite.
Par ailleurs, le président français Emmanuel Macron est arrivé hier soir à Riyad pour une visite visant notamment à faire baisser la tension entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Monsieur Macron avait annoncé en début de soirée à Dubaï un déplacement de 2 heures à Riyad, le temps de rencontrer le jeune prince héritier Mohamed Ben Salman. Le président français a fait de cette escale inattendue au terme d'une visite de 24 heures aux Émirats arabes unis. Depuis le week-end dernier, le ton est encore monté entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Au cœur des nouvelles tensions, le sort du Liban, mais aussi du Yémen, en proie à un conflit meurtrier où les deux poids lourds du Moyen-Orient soutiennent des camps opposés. Ce pays de la péninsule arabique est le théâtre de la pire crise humanitaire de la planète, selon l'ONU. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Écho, Dili Diko.
Au Togo, les autorités ont décidé d'étendre l'approche contractuelle dans la gestion des établissements de santé. Cette approche expérimentée au CHU Atakpamé a convaincu le ministère de la Santé qui a livré ses conclusions mercredi. Les consultations ont augmenté de 4,7%, les actes chirurgicaux de 20%, les actes de laboratoire de 7% et les recettes totales de 20%. En Côte d'Ivoire, le village de Drongouiné est désormais éclairé à l'aide d'ampoules LED connectées à des panneaux solaires. Cet éclairage LED permet aussi d'avoir Internet et la télévision sans câble ni Wi-Fi. Environ 5000 personnes bénéficient de cette technologie appelée LiFi pour Light Fidelity. Ces ampoules LED installées par un entrepreneur ivoirien transmettent les données Internet, y compris les photos et les vidéos, aux ordinateurs, aux smartphones et aux tablettes. Contrairement à la Wi-Fi qui utilise les ondes radio, la LiFi se sert du spectre lumineux pour transmettre les données. L'Union européenne a octroyé au Cameroun 63 milliards de francs CFA pour appuyer sa stratégie de développement rural. La convention de financement pour le cycle 2017-2019 a été signée ce jeudi par le ministre de l'économie, Louis-Paul Motazé. Ce financement permettra aux autorités d'améliorer la productivité des exploitations agricoles familiales.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Jour de vérité à Polokwane entre Bafana Bafana et les Lions de la Teranga du Sénégal.
Et oui, coup d'envoi 16h, temps universel au stade de Polokwane. C'est en Afrique du Sud pour ce fameux match à rejouer dans le groupe D entre le Sénégal, votre Sénégal Idrissa, et l'Afrique du Sud. Amdine Si, envoyé spécial de VOA Afrique à Polokwane, nous fait le point avant le coup d'envoi de ce match tant attendu.
Le stade Peter Makoba de Polokwane sera ce vendredi le théâtre d'un palpitant duel entre l'Afrique du Sud et le Sénégal. Ce sera à partir de 17h GMT dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. En effet, ce duel entre Bafana Bafana d'Afrique du Sud et Lyon du Sénégal comptant pour la deuxième journée, un match à rejouer qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive sera décisif. En effet, le Sénégal, leader de la poule D avec 8 points et un ballotage favorable. D'ailleurs, le Sénégal cherche 2 points sur 6 possibles. Les Lions de la Teranga ont la possibilité de décrocher la qualification en cas de victoire, mais ce sera pas facile face aux Bafana Bafana qui feront tout pour inverser la tendance parce que il le faut impérativement 2 victoires pour chipper la première place à l'équipe nationale du Sénégal. Une mission difficile mais pas impossible pour les Bafana Bafana car en football, tout reste possible. Polokwane, Amédine Si, VOA Afrique.
Déjà éliminée de la course pour Russie 2018, l'Algérie réduite avant sa rencontre avec le Nigeria qualifié.
Après Atal, Goulam Ben Zebaini et Soudani, c'est le tour de Nabil Bentaleb de jeter l'éponge pour cette première rencontre du nouveau staff technique. Blessé il y a 2 semaines de cela, le milieu de terrain de Schalke 04 a connu une rechute et a finalement quitté ses coéquipiers. Le sélectionneur Rabah Majeh va devoir composer avec 21 joueurs pour les 2 matchs contre le Nigeria et la Centrafrique en amical.
Dans la zone Europe, les matchs allés des barrages ont commencé hier et la Croatie est en bonne voie.
Tout à fait, Idrissa, nette victoire de Luka Modric et ses coéquipiers, 4-1 devant les Grecs. De leur côté, les Suisses ont assuré le minimum syndical face aux Irlandais du Nord, battus chez eux 1-0. Les matchs retour se joueront le 12 novembre.
De l'athlétisme, la sprinteuse Carmelita Gitter raccroche à 37 ans.
Et oui, l'américaine deuxième sprinteuse la plus rapide de l'histoire sur 100 mètres a officiellement mis un terme à sa carrière. Gitter est, avec son record personnel de 10 secondes 64 sur 100 mètres, établi en septembre 2009 à Shanghai en Chine donc, la deuxième meilleure performeuse de l'histoire, derrière sa compatriote Florence Griffith, Jonner, 10 secondes 49. Elle compte à son palmarès 3 titres mondiaux, dont 1 sur 100 mètres en 2011 et 3 médailles olympiques lors des JO 2012 à Londres.
Et pour terminer, NBA, quelques résultats des matchs disputés hier soir en basketball professionnel. Washington Wizards bat Los Angeles Lakers 111 à 95. Victoire des Toronto Raptors sur les Pelicans de la Nouvelle-Orléans 122-118. Nouvelle défaite des Cleveland Cavaliers face aux Houston Rockets 117-113.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le procès sur les viols d'une quarantaine de fillettes au sud Kivu s'est ouvert hier soir à Kavumu, en territoire de Kabare, à près de 35 kilomètres au nord de la ville de Bukavu. Parmi les 18 prévenus, un élu provincial. Notre correspondant Ernest Mouero fait le point.
En cette première audience qui a commencé vers 19h heure locale, la cour militaire du Sud Kivu siégeant en matière répressive a vérifié et constaté que toutes les parties prenantes au procès sont assistées avant de procéder à l'appel nominal de tous les prévenus au nombre de 18, dont un député provincial, le lieu des cabarets, Frédéric Batoumike. Dans l'acte d'accusation lu par le greffier de la cour, 4 griefs sont retenus contre ces prévenus, à savoir le meurtre, la participation à un mouvement insurrectionnel, les crimes contre l'humanité par vie, et la détention illégale d'armes et munitions de guerre. Le collectif de 7 avocats qui représentent les victimes se disent satisfaits du début de ces procès. Maître Charles Chichura, porte-parole de ces collectifs.
C'est un sentiment de satisfaction aujourd'hui que ce procès ait commencé, parce que sans cela, on resterait toujours dans l'impunité.
Jean Chrysostome Kidjana, président national de la Nouvelle Dynamique de la Société Civile, précise qu'après investigation, son organisation a découvert que les violeurs qui ont créé la psychose à Kavumu entre 2013 et 2015 appartenaient à une milice aux croyances et pratiques fétichistes dénommée Jeshi Laesu, pour dire armée des Jésus en Kiswahili.
Nous sommes rendus compte qu'il s'agissait de certains éléments d'une milice armée qui fondait leur croyance en pensant que lorsque vous avez des rapports sexuels avec une petite fille, vous devenez invulnérable au bal.
Crispin Kachali, chargé des communications au sein de la Fondation Panzi, rappelle les tableaux dans lesquels l'hôpital de Panzi s'est vu dans l'obligation d'intervenir.
C'était d'abord des réclamations personnelles. Une famille appelait, voilà, il y a un cas ici, il y a un cas là-bas. Et puis on s'était rendu compte que c'était presque un mouvement. Et finalement, on s'est rendu compte que non, c'était un fléau qui était arrivé juste dans ces milieux-là. Alors la Fondation Panzi a accompagné l'hôpital de Panzi avec la clinique juridique à travailler maintenant dans cette action, dans un consortium. L'essentiel, c'est quoi? C'est que la justice soit rendue. Et nous, en tant que Panzi, une organisation qui avait accompagné ces victimes, nous espérons que ces familles vont revenir dans leurs droits. C'est aberrant de pouvoir s'attaquer à un innocent, à un ange.
Astrid Mujinga, coordonnatrice de l'organisation Cordon des femmes congolaises pour l'équilibre des ménages, estime qu'il est primordial par l'action de la justice que les viols soient découragés.
La mère est doublement frustré, parce que d'abord il y a la situation de son enfant qui est violé et qui peut-être ne grandira pas comme les autres fillettes, peut-être qu'elle n'aura plus d'enfants, peut-être dans sa vie. Il faut que ça cesse, parce que ce sont elles les mères de demain.
Signalons que le député Frédéric Batoumike est considéré et présenté comme le chef de file de la milice. Selon maître Charles Chichura, cette milice s'est attaquée à 3 reprises aux positions des FRDC. Au total, 48 petites filles victimes des actes de viol ont été recensées. Leur âge varie entre 8 mois et 7 ans, conclut Charles Chichura. Les audiences foraines se poursuivent ce vendredi. De Kavumu au sud Kivu, Ernest Mouero, VOA Afrique.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Autre procès, celui en appel à Ouagadougou en Mauritanie du blogueur Mohamed Ould Mahitir. Initialement condamné à mort pour blasphème, il a écopé de 2 ans de prison qu'il a déjà purgé. Le blogueur assure avoir tout simplement écrit un billet dénonçant l'utilisation de la religion pour justifier diverses formes de discrimination en Mauritanie. Pour en savoir plus, Eric Manirakiza a joint à Nouakchott Ahmed Diop, rédacteur en chef du journal Al Ahbar.
On peut dire que Ould Mahitir a été tout simplement sauvé de la mort, mais ce n'est pas également une surprise, parce que presque l'opinion a été un tout petit peu préparée. Les manifestations contre le blogueur étaient tolérées avant, mais la dernière manifestation n'a pas été donc tolérée. En quelque sorte, on s'attendait à cette libération. Un aspect qu'il faut rappeler, c'était que Ould Mahitir s'était repenti, donc c'était difficile que cette peine capitale soit donc maintenue. Pour le moment, les alentours de la cour d'appel ont été bouclée et sécurisée. Mais d'habitude, ces questions qui concernent la religion ou autre chose en Mauritanie, il y a eu souvent des manifestations tous les vendredis après la prière. Donc, hebdomadaire, peut-être qu'il y aura des manifestations.
Il y en a donc qui veulent son exécution. Est-ce que vous pensez qu'il sera facile de garantir sa liberté une fois relâché?
Bon, il sera un peu difficile s'il reste en Mauritanie, peut-être de garantir sa sécurité. Moi, je pense qu'il se peut qu'il soit libéré et puis laissé partir à l'extérieur, peut-être, parce qu'en Mauritanie, il pourrait être vraiment en danger, parce que toutes les manifestations auxquelles on a assisté, c'était des manifestations qui demandaient la peine de mort, qui réclamaient sa tête. Donc, pour qu'il reste ici, dans le pays, ça pourrait être un peu dangereux pour lui.
Cette affaire est quand même inédite. C'est la première fois dans le pays que quelqu'un est poursuivi pour apostasie.
Oui, c'est la première fois qu'il y a donc une condamnation à mort pour apostasie. Et cela fait qu'on a constaté cette précipitation au niveau de la justice, au niveau du procès. La Cour suprême avait finalement annulé le premier procès en appel parce que ce premier procès en appel avait donc confirmé la peine capitale qui a donc été prononcée en première instance, tout simplement. Mais les avocats avaient dit que Ouldoum Khaïtir s'était repenti, donc il ne fallait pas maintenir cette peine de mort. Donc on constate un tout petit peu comme c'est une première qui a eu des précipitations. La première manifestation aussi contre Ouldoum Khaïtir, il faut le rappeler, a été accueillie par le président de la République lui-même. Il avait accueilli les manifestants et tout ça explique cette précipitation, que ce soit pour l'opinion publique mauritanienne, la rue et également la justice. Et maintenant aujourd'hui que le coup a été rattrapé et que justice a été faite.
C'était Ahmed Diop, rédacteur en chef du journal Al Akhbar, joint à Nouakchott.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En Centrafrique, environ 70 délégations venues d'Afrique, d'Europe et d'Asie ont pris part pendant 48 heures à Bangui au Forum des investisseurs. Ce rendez-vous fait suite à un plan de consolidation de la paix et de relèvement économique du pays présenté au sommet des bailleurs de fonds à Bruxelles en 2016. Au micro d'Ekia Badou, Moïse Zami du comité de pilotage. Il nous parle des enjeux de ce forum.
C'était plus de 100 investisseurs qui avaient été invités et compte tenu de la salle qui avait été réservée, il y avait plein de monde, surtout les investisseurs venus de l'Europe et d'Asie aussi. On a dépassé largement ce qu'on espérait avoir comme investisseurs dans le pays. Vous savez que la République centrafricaine a beaucoup de potentialités qui ont été exposées au cours de cet atelier et des documents ont été distribués aux investisseurs venus de l'extérieur et de la sous-région africaine aussi, qu'ils ont vu qu'on avait suffisamment de potentialités et qu'ils pouvaient investir dans ces potentialités. Là. D'autre part, il leur a été montré que les tests juridiques pour améliorer le climat des affaires a été pris et c'est très important pour eux parce que, vous savez, l'investisseur ne viendrait pas si les choses ne sont pas intéressantes pour lui.
Alors les possibilités, vous pensez à quoi par exemple?
Vous savez, comme nous sommes dans un processus de relèvement, puisque nous sortons de conflit, tout est à refaire. Nous avons d'abord les infrastructures pour pouvoir relancer l'économie. Les infrastructures sont très importantes. Nous sommes un pays enclavé, il faut qu'on soit désenclavé pour pouvoir communiquer avec les autres régions et que si les investisseurs sont ici, qu'ils puissent facilement faire venir tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir investir correctement. Donc, nous avons les infrastructures routières, nous avons la forêt, nous avons les mines, nous avons l'agriculture qui constitue la base même de l'économie centrafricaine et qui est traitée de façon artisanale jusqu'ici. On commence à développer de nouvelles stratégies, à amener des équipements nécessaires pour booster l'économie. Dans ce sens-là, je pense que ça devrait aider.
Combien de temps la Centrafrique a besoin pour pouvoir mettre en avant toutes ses potentialités avec les investisseurs étrangers?
Vous savez, si les investisseurs arrivent, ils auront la possibilité de faire en commun avec les autres investisseurs locaux une étude plus approfondie. Par exemple, aujourd'hui, je puis vous dire que nous avons 470 indices de substances minérales. Mais on n'exploite que dans ce cas-là que le diamant et l'or. Vous voyez, il reste encore beaucoup de choses comme le cuivre, l'uranium, les autres éléments. Mais il faudra qu'on fasse des études approfondies pour déterminer effectivement la quantité et la portée de tous ces éléments pour pouvoir les exploiter parfaitement.
Moïse Zami du comité de pilotage du Forum des investisseurs à Bangui.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui sur le 101.7 FM.
Situation politique tendue au Zimbabwe, le vice-président déchu Emmerson Mnangagwa promet depuis son exil sud-africain de combattre le pouvoir de Robert Mugabe, accusé de baliser la voie pour son épouse Grace. Pour analyse, Abdourahmane Dia a joint à Pretoria le professeur André Thomashausen.
C'est très tragique, où vraiment un régime en chute est en train de s'avaler les uns aux autres et ça va finir très mal dans un bain de sang, parce que les forces qui s'opposent sont chaque jour plus intransigeants et moins capables de trouver un compromis, de trouver un accord sur le chemin qui pourra mener le Zimbabwe à un avenir.
C'est d'autant plus inquiétant qu'on a vu l'association des anciens combattants prendre ses distances envers Robert Mugabe.
Évidemment, et M. Mnangagwa, qui est très décidément un porte-parole des anciens combattants, et lui-même un ancien combattant très respecté, a aussi menacé de faire tomber le régime de Mugabe. Il a alerté Mugabe que le pays n'est pas la propriété privée de la famille Mugabe, et il a assuré ses amis et les anciens vétérans qu'à partir de l'exil, il combattra la famille Mugabe.
La voie semble balisée pour Grace Mugabe, puisque tous les potentiels successeurs de Robert Mugabe ont été renvoyés.
Oui, très certainement, et très contrairement, par exemple, au cas d'Angola, où aussi un président pratiquement éternel a eu la sagesse de se retirer du pouvoir, de permettre l'avancement d'une transition. Au Zimbabwe, Mugabe est d'une intransigeance extraordinaire. Il pense pouvoir continuer son règne à travers de sa femme.
L'Afrique du Sud, dans tout cela, est-ce que vous pensez que c'est une situation qui préoccupe Pretoria qui est un voisin puissant, pour faire quelque chose?
Il y a à peu près 4 millions de réfugiés économiques du Zimbabwe en Afrique du Sud qui occupent pas mal de capacités de services sociaux dans ce pays. L'accès aux hôpitaux, l'accès pour les enfants aux écoles, dans un pays qui n'est pas du tout riche et qui a aussi une sérieuse baisse économique, c'est très sérieux. Si la situation au Zimbabwe devient pire, nous pourrons nous attendre de recevoir encore au moins 1 million ou peut-être 2 millions de réfugiés du Zimbabwe.
C'était de Pretoria, le professeur André Thomashausen.
Chaque vendredi sur VOA Afrique, retrouvez John Lyndon dans l'Amérique et vous.
L'Amérique et vous, c'est un condensé de la vie aux États-Unis avec l'éclairage de nos experts.
En réalité, l'impression que les Africains ont de la CPI, c'est que le vrai nom de la CPI, c'est Justice pour l'Afrique.
Fidel Castro était vraiment le cauchemar des États-Unis d'Amérique.
L'Amérique et vous, c'est aussi la politique intérieure et les problèmes de société vus sous l'angle américain et africain.
Que c'est une bonne politique qui se vit du côté des États-Unis.
Je crois qu'il faut saluer d'abord cette initiative américaine.
L'Amérique et vous, votre fenêtre sur les États-Unis tous les vendredis 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Dans la prochaine édition de Votre Santé, Votre Avenir, nous parlerons des naissances et des bébés prématurés.
Selon l'OMS, environ 15 millions de bébés naissent prématurément dans le monde chaque année. Les accouchements prématurés dans certains sont pourtant évitables.
Pour en savoir davantage, nous recevons comme invité le docteur Mavinga Laetitia, pédiatre au service de néonatologie des cliniques universitaires de Kinshasa.
Nous écouterons aussi le témoignage de la mère d'un bébé prématuré et du président du réseau des médecins du district du Cameroun.
Votre Santé, Votre Avenir est un programme de VOA Afrique diffusé les samedis, dimanche et mercredi à 8h30, temps universel.
Ne manquez pas le rendez-vous.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h, temps universel, dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.